l'Agora des Savoirs, des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
Les mercredis à 20h30, salle Rabelais, la ville de Montpellier propose une trentaine de conférences destinées au grand public.
Que voulez-vous, madame? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Depuis 2 millions d'années, ils se racontent des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Il y a beaucoup de choses en nous.
La restime de sirène jusqu'au mur de mai 68
que nous ignorons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
La science est un discours.
Le mercredi 6 juin 2012, conférence de clôture, Alexandrie, une ville de savants. Les fouilles archéologiques du Centre d'études archéologiques, équipe du CNRS basée à Alexandrie, ont mis au jour des maisons, des rues, des murailles, des sanctuaires, des nécropoles sans oublier les restes du phare. Ces bâtiments et leur mobilier fournissent des témoignages sur la présence des savants qui menaient leurs recherches au sein de la ville, rassemblés au musée et dans la grande bibliothèque. Jean-Yves Empereur, archéologue, ancien membre de l'école française d'Athènes et directeur du centre d'études Alexandrine, nous parlera de ses découvertes dans ce nouveau numéro de l'Agora des Savoirs.
Je remercie avec vous l'université de Montpellier, les collègues qui travaillent en Égypte, ici réunis, et aussi les organisateurs de cette manifestation de ce soir, de cette rencontre, de l'Agora des Savoirs. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver à Montpellier, puisqu'on a failli, il y a quelques années, y monter une exposition. Donc j'espère que ce n'est que partie remise. Et lorsqu'il y a un an, j'ai accepté cette invitation à venir vous parler ce soir, on m'a demandé un titre et un résumé. Bon, c'était il y a un an. Donc... Je vais vous parler un peu des savants d'Alexandrie, mais surtout faire le point avec vous sur ce qu'il y a de neuf dans l'archéologie alexandrine. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, la redécouverte d'Alexandrie n'est pas le fait du 19e siècle, mais plutôt de la fin du 20e siècle et du 21e siècle. En effet, il n'y a pas de jour où on ne construise un immeuble et où on ne fouille dans les entrailles de la ville pour y découvrir donc les vestiges du passé. Cette ville immense que vous voyez sur cette image, dont on ne sait pas exactement le nombre d'habitants, certains parlent de 6 millions, 7 millions, 8 millions, bon. Enfin une des très grandes villes de la côte méditerranéenne, peut-être la plus grande d'ailleurs, et qui était aussi une mégapole dans l'Antiquité. Et cette ville très brillante, très glorieuse, enfin tous les superlatifs ont été employés à propos de l'Alexandrie antique, eh bien, livre peu à peu, par ses entrailles, donc ce témoignage de son opulence et de son raffinement. Et je vais vous montrer ce soir quelques-unes de ces plus récentes fouilles et découvertes qui ont été l'objet des travaux de notre petite équipe du CNRS Alexandrie, du CE Alex, parce que le commissariat à l'énergie atomique nous a demandé de changer de sigle, pour qu'il n'y ait pas de confusion, donc le CE Alex, mais aussi de nos collègues égyptiens et polonais qui œuvrent également donc à cette redécouverte d'Alexandrie et qui ont récemment donc procédé à des fouilles avec des résultats extrêmement intéressants. Et pour commencer, je vais vous emmener dans le sous-sol alexandrin, dans un monument qui est déjà connu de ceux qui ont visité Alexandrie, puisque c'est un must quand on se rend dans cette ville que d'aller visiter les catacombes de Kom el Chougafa. Et vous me direz, c'est un monument qui a été découvert en 1892, qui a été fouillé il y a donc plus de 120 ans. Pourquoi y retourner? Eh bien, simplement pour y retrouver Perséphone qui, vous allez le voir à travers deux sites d'Alexandrie, commence à réapparaître, à remonter donc des enfers du monde souterrain pour revenir à la surface d'Alexandrie. Les catacombes de Kom el Chougafa se trouvent
de façon assez bizarre à l'intérieur des murailles de la ville d'Alexandrie, ici. Vous voyez les grandes murailles qui se développent ici. Ça, c'est les murailles médiévales telles qu'elles ont été retrouvées, dessinées par les savants qui accompagnaient Bonaparte durant l'expédition d'Égypte. On voit une des deux cartes, un des deux plans d'Alexandrie levé à cette époque, entre 1798 et 1801. Et donc, nous allons nous diriger ici, vers le sud-ouest de la ville, dans ce monument qui est l'un des plus visités de l'Alexandrie moderne, où l'on trouve une magnifique tombe de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, avec une scène dans la chapelle principale qui nous montre en relief une momification, la momification d'Osiris. Scène bien connue, publiée, republiée. Mais c'est dans la tombe voisine qui se trouve ici. Donc nous étions, la chapelle principale se trouvant ici. Pardon, ici. Nous allons nous diriger vers une tombe voisine qui se trouve par ici, avec dans l'Antiquité une entrée indépendante et qui communique maintenant avec cette tombe principale par un trou de voleur. Et dans cette tombe, eh bien, j'étais amené, il y a en 1992, à faire une découverte au moment où j'écrivais un petit guide de ces catacombes, une découverte sur les parois d'une niche de sarcophage. Décidément, j'ai des problèmes avec ma flèche. Vous voyez ici le sarcophage qui est brisé par le trou des voleurs, ici. Et ici, eh bien, des peintures qui apparaissaient à peine il y a 20 ans exactement. Et lorsque je les ai discernées, j'ai regardé avec attention toute la biographie sur le sujet et personne n'en parlait. Eh bien, merci beaucoup. Et ici, donc, une scène dans cette première tombe, à côté d'un autre sarcophage sur lequel je reviendrai rapidement. Cette scène, qui apparaît de façon encore très pâle et qui, il y a 20 ans, apparaissait à peine, eh bien, décrit, comme vous le voyez, deux scènes différentes qui sont séparées par une ligne rouge, deux registres que l'on devine de façon malaisée à l'œil nu. Un photographe de notre équipe, André Pell, à cette époque, en 1996, donc quelques années après la découverte, utilisait la lumière infrarouge et l'ultraviolet. À l'ultraviolet, eh bien, les figures déjà commençaient à apparaître. Vous voyez ici un personnage avec les ailes étendues, un calatos sur la tête, et ici un autre personnage masculin qui se tient derrière elle. Grâce à cette lumière ultraviolet, on a pu distinguer à l'époque donc quelques personnages, des cartouches avec des faux hiéroglyphes, un Anubis ici avec la momie d'Osiris, vous voyez la tête de lion du lit funéraire et deux vases canopes en dessous. Donc déjà, il y avait un gain dans notre connaissance. On pouvait retourner donc à cette scène et étudier celle du bas qui, cette fois-ci, perdait son sens à cause de ce trou de voleur. On distinguait bien trois personnages ici, mais là, les voleurs nous avaient privés de la signification de la scène donc, qui devait être complétée ici pour qu'on puisse en comprendre le sens. Notre photographe s'est promené dans cette tombe avec ses néons d'ultraviolet et dans cette tombe voisine, où l'on ne voyait rien, et je vous assure qu'on ne voit encore presque rien à l'œil nu, eh bien là, de façon quasi, quand je vous dis qu'on ne voit rien, vous pouvez le constater par vous-même. Et pourtant, il y a une ligne rouge ici qui permet de comprendre eh bien, qu'on avait affaire à deux scènes superposées et donc, a priori, eh bien, à la même chose que dans double scène que dans la tombe précédente. Et cette fois-ci, eh bien, elle était complète à cet endroit-là. Grâce toujours à l'ultraviolet, quelques personnages apparaissaient. Ici, on distingue vaguement la momie sur son lit. Et puis là, eh bien, des figures bien pâles. Mais elles sont là. Vous voyez ici, donc, la scène pharaonique. Et ici, une scène enlevée de type grec que l'on va pouvoir distinguer beaucoup plus facilement grâce aux nouvelles images. En effet, ces images ont été réalisées avec des appareils numériques et donc un traitement de la lumière, alors que ce traitement nous permettait de distinguer ici, sur un char tiré par quatre chevaux, sur un quadriche, une femme est enlevée par un homme barbu. Et donc nous avions évidemment une scène que tout le monde connaît dans la mythologie grecque, grâce notamment aux hymnes de Déméter, de l'enlèvement de Perséphone, alors qu'ici, trois déesses assistent au rapt, Artémis, Athéna, Aphrodite avec sur son épaule Eros. Et voilà le résultat auquel nous étions arrivés, avec donc les nouvelles photographies qui ont été réalisées durant la campagne de l'hiver dernier, cette fois-ci sur des appareils numériques, et je vais vous expliquer comment, eh bien les scènes apparaissent d'une façon tout autre. Vous reconnaissez ici parfaitement le quadriche, avec l'homme barbu, eh bien c'est Hadès, évidemment, le dieu du monde infernal, et ici, eh bien, la jeune Perséphone qui se fait enlever donc pour être emmenée aux enfers. On distingue bien ici, immobile, assistant à l'action, mais n'intervenant pas, Aphrodite. Et ici, eh bien, avec son bouclier, avec sa lance, avec son casque, Athéna, qui essaie de s'opposer à l'action, ainsi qu'Artémis, ici, avec son arc, qui commence à bander une flèche pour essayer d'empêcher cet enlèvement. La photographie de 1996 donc, nous donnait déjà l'image pâle de cet enlèvement. Mais grâce à des traitements que je vais vous présenter, eh bien, le jeu a complètement changé en l'espace d'une dizaine d'années. De 1996 à 2012, en 16 ans, eh bien, voilà le résultat des recherches de notre photographe qui nous permet cette fois-ci d'être sûr de cette identification. Là où on devinait des scènes, eh bien, nous en avons maintenant la preuve sous nos yeux. Voilà les chevaux du quadrige. Voilà donc toutes les rênes et l'harnachement des chevaux. Voilà le rapt lui-même, avec penché, essayant d'échapper à son agresseur. Eh bien, on reconnaît très bien le visage de la jeune Perséphone avec son kalatos, avec sa corbeille sur la tête, qui est un de ces signes auxquels on peut la reconnaître, et le dieu barbu donc, qui l'emmène en la serrant d'un bras et en tenant ses chevaux de l'autre. Ces scènes autour du sarcophage, eh bien, nous les avions devinées, nous les avions interprétées en cherchant tous les parallèles, évidemment, auxquels nous avions accès dans la littérature grecque ou dans l'iconographie qui représente ces scènes. Mais évidemment, il y a parfois des endroits où nous étions trompés. Par exemple, ici, nous avions reconnu la petite Perséphone dans la scène de gauche du sarcophage en train de cueillir des fleurs dans les champs avec ses amis, suivant une scène qui est décrite dans l'hymne de Déméter, et une de ses amies ici. Ici, on distinguait Athéna, et ici, eh bien, on voyait un dieu barbu avec une corne d'abondance sur un rocher, avec peut-être le flux d'un cours d'eau, certainement une divinité, dieu fleuve, fécondité, etc. Mais, eh bien, nous avons dû reconnaître que nous étions trompés grâce à l'évidence des photos. Le dieu barbu, vous le voyez ici, c'est devenu eh bien, la petite Aphrodite qui, avec son kalatos, qui est penchée pour ramasser des fleurs. Et ici, Aphrodite, avec Eros sur l'épaule, et également ici, eh bien, un personnage encore plus, dans une position insolite, puisqu'il s'agit, vous le reconnaissez en son casque, Athéna, qui elle aussi est en train de cueillir des fleurs. Vous voyez, la déesse de la guerre, dans cette position aussi pacifique, en train de ramasser des fleurs en compagnie de la petite Perséphone. Une scène qui n'a aucun parallèle, mais qui s'impose maintenant dans sa clarté. Nous y reviendrons. Les plafonds eux-mêmes parlent, si je puis dire. On distinguait vaguement des pampres, des taches qui correspondaient à des fleurs, voire peut-être quelques volatiles qu'on voit ici, un paon sans doute ici, pigeon, un coq. Etc. Mais maintenant, l'évidence parle. voilà, après traitement, ces oiseaux qui sont dans cette sorte de paradis, hein, de paradeisos, de grand jardin que le mort était censé voir lorsqu'il était allongé dans la cuve du sarcophage. Eh bien, voilà ce qu'il voyait. Ces oiseaux qui, donc très variés, avec des moineaux, des pigeons, des paons comme celui-ci, des coqs, des canards, etc., qui, avec toutes sortes de végétaux, de guirlandes de fleurs, qui, donc, étaient vus du défunt. Ce secret des images d'André Pell, eh bien, une fois qu'on l'a compris, est relativement simple, mais cela donne des champs d'application extrêmement variés. En fait, on pensait que la photo numérique était en deçà de la photo argentique, et si on s'applique à analyser les traitements que l'on peut appliquer à Photoshop, hein, tout simplement, donc un logiciel que vous pouvez aller acheter à la FNAC en sortant d'ici, eh bien, on s'aperçoit que l'on peut décomposer la lumière et que cette décomposition de la lumière en rouge, en bleu et en mélangeant, par ici c'est par exemple le rouge avec le bleu, ici c'est le bleu avec le vert, eh bien, à chaque fois, ça nous donne la trace de traits qui peuvent être recomposés par cette décomposition et ce rassemblement des différentes lumières. Et c'est ainsi, eh bien, qu'on arrive à partir de cette décomposition et recomposition, eh bien, ces images extrêmement claires de personnages qui sont à peine visibles à l'œil nu. Et on peut ainsi, de manière lapidaire, faire apparaître de façon extrêmement évidente, eh bien, l'invisible, le quasi-invisible qui s'impose à nous jusque dans les plus grands détails. Je vais vous montrer ici quelques images qui valent la peine, à mon avis, d'être vues parce qu'elles témoignent de la grande qualité de ces peintures du début de l'époque romaine. Certaines d'entre elles, et notamment ces visages qui sont représentés de trois quarts, eh bien, j'ose le dire, évoquent tout à fait la tradition macédonienne. Vous voyez, c'est Athéna ici, avec c'est Aphrodite avec Eros sur l'épaule. Eh bien, vous voyez son regard vers l'enlèvement, extrêmement pacifique. Vous voyez les plis de son habit. Voilà le petit Eros, donc, dont on reconnaît les yeux, le visage du bambin qui est en train de tirer une flèche donc vers Hadès et vers Perséphone. Voici Athéna avec son casque, qui, elle, regarde la scène un peu effrayée et qui tente de s'y opposer. Mais si on agrandit son thorax, eh bien, on reconnaîtra tout à fait la méduse, même avec les écailles. Et voici Artémis, qui est en train d'essayer de tirer une flèche de son carquois. Voici le visage de la petite Perséphone. Donc, des scènes, en fait, qui sont extrêmement bien composées dans cette sorte de progression de la gauche vers la droite, depuis les déesses qui empêchent le rapt jusqu'à la fugue même d'Hadès vers le monde souterrain. Je le disais, nous sommes trompés d'ailleurs plus d'une fois, et c'est grâce à ces nouvelles techniques que nous pouvons le comprendre. Par exemple, sur le petit côté droit du sarcophage, eh bien, nous avions, grâce à une de nos dessinatrices, Mary-Jeanne Schumacher, réalisé des huiles qui permettaient justement de corriger nos erreurs à chaque fois qu'une interprétation nouvelle venait, avec la scène pharaonique au-dessus et au-dessous, eh bien, ce qu'on avait reconnu comme ici donc Déméter qui venait chercher sa fille qui sortait des enfers, hein, vous connaissez le mythe. Donc Perséphone est emmenée par Hadès dans le monde infernal à l'automne, mais Déméter cherche sa fille éplorée sur toute la surface de la Terre, ne la trouvant pas, eh bien, elle décide de faire la grève, d'arrêter toute végétation. Et elle va voir son frère, le roi de l'Olympe, Zeus, qui lui dit bien qu'il va récupérer donc Perséphone pendant 6 mois au printemps, qu'elle ressortira de l'enfer et qu'ainsi la végétation pourra renaître jusqu'à l'automne suivant, passant ainsi du monde souterrain pendant l'hiver au monde des humains pendant l'été, suivant le cycle de la végétation, et donc cet espoir d'une nouvelle vie qui est transmise par ce mythe qui aura beaucoup de succès à l'époque hellénistique dans les cultes à mystère. Et bien là, donc, on croyait reconnaître Perséphone qui semblait sortir des enfers, avec ici, eh bien, Hadès qui présidait, avec une torche, qui présidait à cet Anodos. Et en fait, eh bien, voilà la scène qui s'impose. Elle est complètement différente. Complètement différente, puisque ici, ben, vous voyez que Déméter, merci, qu'on voyait, eh bien, Déméter est nue. Elle a des attributs masculins. Elle a un tirse dans la main. Et vous voyez que la jeune Perséphone, eh bien, s'est transformée en Cerbère à triple tête. Donc, elle ne sort pas des enfers. C'est le gardien des enfers qui est là pour empêcher quiconque d'entrer ou de sortir. Et là, eh bien, sur un double trône, on aperçoit un personnage barbu en majesté avec une jeune femme à côté. Eh bien, c'est à l'intérieur des enfers, et ça, c'est une vue qui est absolument unique. Eh bien, là, vous avez donc une vue des enfers eux-mêmes avec en majesté le couple Hadès-Perséphone. L'évidence est là. Vous voyez le caducée d'Hermès, ce psychopompe, hein, celui qui amène les âmes vers l'enfer, hein, de ses attributs, de ses fonctions. Vous avez la tête donc de ce dieu Hermès. Vous avez ici évidemment les trois têtes de Cerbère, qui est bien campé sur ses jambes arrière, défendant l'accès du monde infernal. Et ici, eh bien, on devine la tête du dieu barbu, Hadès. Ça change tout, vous voyez. Tout, d'autant que si nous avions interprété de cette façon ces scènes en 1996, encore une fois, c'est en comparant ces scènes à ce que nous connaissions, au parallèle à la fois connu des sources littéraires, mais aussi de l'iconographie. Et là, il s'agit de scènes qui n'ont plus de parallèle, mais qui s'imposent par leur évidence même. La partie pharaonique qui surplombe la partie grecque, eh bien, si je puis dire, réservait moins de surprises, parce qu'elle est plus conventionnelle, avec la momie d'Osiris que vous voyez ici, on voit bien le lit à tête de lion avec la queue redressée, mais les détails méritent d'être montrés dans leur évidence, comme vous le voyez ici. Nous avons fait appel à un égyptologue de l'IFAO pour interpréter ces scènes dans leurs détails, montrant qu'il s'agit bien de quelqu'un qui n'avait peut-être pas l'habitude de peindre des scènes pharaoniques. Et par exemple, il nous a bien confirmé que dans la clarté des nouvelles photos, les cartouches de hiéroglyphes ne renfermaient que des pseudo-hiéroglyphes, donc de quelqu'un qui ne connaissait plus la langue égyptienne. Et vous voyez la précision dans le détail qui apparaît maintenant d'une peinture qui, même si elle n'est pas bien comprise dans ce contexte pharaonique, eh bien, est tout à fait réussie jusque dans le moindre détail de ces divinités, de ces Anubis, Horus et Thoth qui apparaissent dans ces scènes pharaoniques. Et voici donc le développé complet de la scène grecque au-dessus du sarcophage, avec ici le jeu de cueillettes de fleurs dans les champs, l'enlèvement qui apparaît ici avec le quadriche, et là, eh bien, les Perséphones aux enfers avec Hadès. Donc, une nouvelle scène qui apparaît ici, il faut oublier ce que nous avons écrit en 1997 dans le bulletin de correspondance hellénique. Un livre complet, une monographie paraîtra sur ces récentes découvertes durant l'hiver prochain. Et donc, il faudra oublier ce que nous avons écrit il y a une dizaine d'années. Perséphone, donc, réapparaît. Perséphone réapparaît à Alexandrie, non seulement dans les catacombes de Komelchougafa, mais aussi au sud de la ville, dans le sanctuaire d'Eleusis. Il y avait en effet à Alexandrie eh bien, un sanctuaire à mystère qui était une sorte de copie de celui de la banlieue d'Athènes où se déroulaient eh bien, des cultes sur les mystères de la nature, de Déméter, de Perséphone, Corée. Et eh bien, ces cultes à mystères étaient reproduits à Alexandrie depuis au moins Ptolémée II, si ce n'est le règne de son père. Les sources littéraires nous en parlent abondamment, et nous savions à peu près qu'il était situé hors de la ville, mais sans avoir plus de précision. Dans les années 1820-1830, il y avait eu une exploration de ces faubourgs où on avait trouvé des fragments de statues qui nous sont signalés par Wilkinson, d'autres voyageurs, et quelques-uns de ces fragments de statues qui avaient été dessinés complètes à l'époque, eh bien, ont été vendus par des marchands alexandrins au musée gréco-romain d'Alexandrie et au musée de Marimont. Au musée de Marimont, on a vendu cette partie supérieure d'un portrait d'une Cléopâtre. Les spécialistes se battent pour y reconnaître tantôt Cléopâtre IV, tantôt Cléopâtre VII, la grande Cléopâtre. Et du coup, eh bien, ici, il s'agit, puisque c'était une paire qui se tenait la main, d'ailleurs, la main est au musée de Marimont, d'une façon assez inhabituelle, eh bien, selon l'identification de la reine, ici, il s'agissait soit d'un Ptolémée, soit de Marc-Antoine. Ce sont des statues colossales. C'est des statues qui font donc 4 à 5 mètres de hauteur, et on connaissait leur lieu de découverte à cet endroit, que vous voyez sur une carte dressée par un savant égyptien, dont vous voyez le nom ici, qui s'appelle Mahmoud Bey El Falaki, Mahmoud, donc l'astronome, qui avait été engagé donc par le Khédive Ismail pour dresser une carte d'Alexandrie que le Khédive voulait offrir à son ami Napoléon III. Napoléon III qui écrivait une histoire de César, dont il a publié quelques volumes avant la défaite de Sedan. Et après en 1872, donc Mahmoud El Falaki a décidé de publier cette carte qui sert encore de base pour tous les archéologues qui fouillent à Alexandrie, avec ces plans orthogonaux de rues qui se coupent à angle droit et cette muraille donc qui délimitait la ville, au moins à l'époque hellénistique, les murailles romaines étant sans doute un peu plus vastes encore. Et là, il a noté un sanctuaire qu'il nomme Éleusis. Éleusis, qui est un quartier au sud d'Alexandrie, qui maintenant est tout à fait loti, bâti, mais il reste encore quelques terrains vagues qui ont été achetés durant les dernières années par les promoteurs qui comptent y construire aussi des tours comme celles que vous voyez ici. Et ici, là, intervient la directrice du musée de Marimont, donc en Belgique, au sud de Bruxelles, où est conservé le haut du buste de cette Cléopâtre. Elle vient nous voir et nous demande si nous serions prêts à aller vérifier à cet endroit s'il reste des vestiges de ce sanctuaire d'Éleusis, voire des fragments du groupe statuaire. Évidemment, la problématique archéologique nous semblait un peu mince, et donc nous avons accepté en se disant qu'il serait toujours intéressant de voir la nature du sous-sol. On est près d'un lac antique et qui a été asséché à la fin du 19e siècle, etc. Donc nous y allons un peu à reculons, à vrai dire. Premier coup de pioche, eh bien, nous tombons sur des blocs de granit, dont certains portent des hiéroglyphes. Et vous verrez quelques vues de cette fouille avec des colonnades parallèles qui font penser à des portiques ou voire à un énorme bâtiment, colonnades en granit, qui sont d'époque romaine, mais qui sont posées sur des blocs en place, plus anciens, notamment des blocs de marbre des îles de Paros ou de Naxos, extrêmement précieux et travaillés d'une façon admirable, qui remonte certainement à l'époque ptolémaïque. Les conditions sont difficiles. Le bâtiment, visiblement, a été abattu à la fin de l'Antiquité. On a retrouvé des fours à chaux. Les chaux-fourniers se sont emparés de la plupart des blocs de marbre et de calcaire et ont laissé le granit qu'ils débitaient pour pouvoir le réutiliser. Il y a là une sorte d'immense château de cartes tombé donc avec ses blocs enchevêtrés. Et la fouille continue. La fouille continue. Nous avons jusqu'à présent donc fouillé dans ces deux écoles et ces deux parkings. Et là, à partir de dimanche prochain, commence une nouvelle campagne sur cet énorme terrain de 17 000 m², donc qui nous donnera peut-être la suite de cet immense complexe, de ce sanctuaire, sans doute, enfin au moins un bâtiment public, si on ne peut pas aller plus loin, qui donc est en cours de fouilles et d'études. Nous allons évoquer ici une fouille qui a été menée par nos collègues égyptiens, à laquelle ils nous ont associés en expertise, qui concerne un tout autre genre de bâtiment. Certes, un bâtiment religieux, mais dans un autre endroit, au cœur de la cité, avec non plus un culte hellénique, mais un culte d'ordre pharaonique, d'ordre égyptien. Nous sommes donc le Smoua et le Zis, c'est par là, hein, à 5 km. Nous sommes au cœur de la ville, à côté de la gare. Dans l'Antiquité, donc, on se retrouverait à peu près ici. Ici, vous avez donc ce qu'on appelle, terme moderne, la voie canopique, le grand axe est-ouest de la ville d'Alexandrie, qui partait de l'est de la porte de la Lune jusqu'à la porte du Soleil, ici à l'ouest, à 5 km plus loin. Et ici commencent les nécropoles, comme El Shugafa, se trouvant quelque part par ici. Eh bien, ici, le long d'une des grandes rues de l'Antiquité, parallèle à la voie canopique, eh bien, dans cette parcelle, vous avez ici la gare moderne d'Alexandrie, dans cette parcelle, qui devait donc, et qui abrite maintenant déjà un hôtel de la police, eh bien, les engins, les bulldozers ont déjà excavé, vous le voyez, sur 6 mètres de profondeur, et apparaissent soudainement des ruines dans cet endroit, encore une fois, très central de la ville moderne comme de la ville antique. Et quelques restes architecturaux, en fait, la base en calcaire blanc, extrêmement bien travaillé et jointoyé, d'un bâtiment hellénistique en calcaire, avec ça et là, ici, 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 des favicées, des fosses. Des fosses qu'on aperçoit à peine dans le sol et qui s'avèrent contenir un matériel extrêmement riche et divers. Riche et divers puisqu'il y a là de la céramique avec des vases entiers, ce qui est rare sur les sites que l'on fouille à Alexandrie, à part les nécropoles, évidemment, où on place ces vases dans des tombes pour un usage unique. Mais là, au milieu de ces vases complets, eh bien, des chats. Quelques statuettes aussi de divinités égyptiennes, avec une Isis allaitant en faïence. Quelques monnaies qui permettent de dater ces fosses. Donc des fosses cultuelles dans lesquelles on avait rassemblé du matériel votif. Ces favicées, ces fosses, on les connaît sur nombre de sanctuaires grecs. Ces objets étaient consacrés à la divinité et donc on ne pouvait pas les jeter, si ce n'est les creuser le sol et les rassembler, toujours propriété du dieu. Des monnaies qui permettent de dater ces favicées de la fin du IVe siècle et du début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et des chats, des chats en calcaire, des chats en terre cuite, qui soit allaitent leurs petits, soit jouent avec des oiseaux. Des oiseaux, souvent des petits canards, vous voyez ici le bec de l'oiseau, la tête et le corps. Ces oiseaux, eh bien, ont souvent gardé leur couleur, c'est toujours la même, ils sont bleus. Et les chats, eh bien, en différentes positions. Celui-ci est plus au repos, comme vous le voyez, et il a la particularité, eh bien, d'être couvert d'une feuille d'or, comme nombre d'autres chats. Avec parfois des inscriptions, toujours en grec. Ici, on peut lire donc Moschion, ça c'est pas un iota, Boubasti, Euken. Donc c'est une offrande en reconnaissance d'un vœu qui a été exaucé à Boubastis, pour un certain Moschion. Et vous voyez, les chats qui se multiplient, il y en a en fait des centaines, qui doivent être constitués patiemment par les équipes de restaurateurs. Des chats qui proviennent de... Actuellement, on doit dénombrer une bonne dizaine de moules différents, mais aussi des chats de calcaire. Et à côté des chats, eh bien, des statuettes aussi, en pierre, en calcaire, parfois en marbre, eh bien, de petites filles et de petits garçons qui, eux aussi, souvent tiennent des oiseaux. Avec, vous voyez, les couleurs qui sont encore restées assez vives, avec aussi, sur la base, bien souvent, l'inscription qui nomme ces enfants, Aristo Boulet, par exemple, ici, Boubasti, Euken. Ou, ici, donc un petit garçon avec son oiseau bleu, avec sa chevelure encore dorée, ou celui-ci, qui est donc taillé d'un bloc dans le marbre, avec un marbre, là encore, égéen, avec une inscription qui le nomme donc Formion, Boubasti. Un petit garçon qui s'appelle Formion. Eh bien, c'est une découverte assez étonnante, puisque dans ces favicées, on a retrouvé également les plaques de fondation. Plaques de fondation en grec, mais aussi en hiéroglyphe. Des plaques de fondation qui montrent donc que c'est à un moment donné le sanctuaire a été agrandi par Ptolémée III, mais la céramique montre qu'il était déjà en usage au cours du IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est une découverte tout à fait étonnante, car il s'agit d'une divinité égyptienne qui était pratiquée par les Grecs, comme vous l'avez vu dans ces représentations d'enfants, avec ces inscriptions en grec, ces noms en grec, qui rappellent tout à fait le culte donc, qu'on faisait aussi en Attique, avec ces ours, ces petites filles qui servaient le temple. Mais ici, il s'agit d'une autre forme, puisque ce sont des ex-voto autour de la grossesse, de l'enfantement. On voit des chattes qui allaitent leurs petits, et de la petite enfance. Donc un culte tout à fait égyptien de cette déesse qui est connue largement dans le Delta, Bastet, et qui là est adorée sous sa forme à la fois, sa forme égyptienne, mais par des dévots grecs, à la fois sous la forme du chat, donc la forme zoomorphe de la déesse, mais aussi donc avec des ex-photos représentant des enfants à la grecque. Donc une découverte capitale qui montre eh bien, comment au cœur d'Alexandrie, il y avait un culte d'une déesse égyptienne qui était opérée par les colons grecs. Nous allons quitter donc le cœur même de la ville pour nous arrêter quelque part par ici, sur la corniche moderne d'Alexandrie, juste en dehors de la muraille, dans un quartier qu'on appelle Ibraméia, l'époque moderne, et qui est juste donc à l'est de la nécropole de Chadbi. Et là, eh bien, il y a quelques mois, nos collègues du service des antiquités égyptiennes nous ont appelés pour aider à relever et à étudier les vestiges d'une tombe hellénistique creusée dans le sous-sol donc de calcaire tendre d'Alexandrie. Et cette tombe est exactement contre la corniche, non pas côté mer, mais côté terre, et elle descend à plus de 5 mètres de profondeur avec des colonnes qui délimitaient certainement une salle à manger funéraire, avec des chambres funéraires et des loculi que l'on creusait dans les parois. Une tombe qui, d'après la céramique, mais aussi d'autres éléments, date dans son aménagement premier du 3e siècle avant Jésus-Christ, donc de la haute période hellénistique. Et là, eh bien, sur une paroi lissée, une inscription grecque. Et puis une petite fente qui permet de distinguer avec une torche électrique à l'intérieur un vase. Cette inscription, eh bien, grâce aux méthodes que vous avez déjà vues, dont vous avez remarqué l'efficacité d'André Pell, bon, on la lit difficilement ici, avec son traitement, eh bien, on lit très bien Cléitarché, Timésitéou, Cresté Caïré, donc quelqu'un qui s'appelle Cléarchès, fils de Timasitéos, donc l'excellent adieu, formule funéraire la plus commune dans les nécropoles alexandrines et ailleurs. Sur cette paroi est démontée par le service des antiquités, et à l'intérieur, eh bien, il y avait ce vase. Ce vase qui est un vase bien connu des nécropoles alexandrines, c'est ce qu'on appelle une hydrie de Hadra, donc un vase à eau au départ, avec deux petites anses ici et une grande anse derrière, qui était scellé par du plâtre, et souvent dans ce bouchon de plâtre il y avait des traces, donc des empreintes de sceaux de magistrats, avec le nom du défunt et une scène figurée. Ces hydries de Hadra, on en a trouvé des quantités à Alexandrie, plusieurs centaines, notamment donc à la nécropolis. Voici un petit choix de ce que nous avons trouvé dans nos fouilles il y a une dizaine d'années. C'était en fait des urnes cinéraires qui étaient importées de Crète. Il y a eu certes après quelques imitations locales, quelques Alexandrins se sont mis à imiter ce produit qui était visiblement destiné à un usage funéraire, un usage cinéraire. Et des anthropologues, que vous voyez ici au travail, eh bien, ont vidé patiemment ces urnes pour s'apercevoir, eh bien, qu'en fait on pouvait reconstituer très largement le squelette. Voilà les os brisés et carbonisés qui ont été de ce squelette qui a été reconstitué donc à partir des restes qu'on a trouvés à l'intérieur des urnes. Et donc d'une manière tout à fait évidente maintenant, eh bien, on suivait l'ordre anatomique avec ici le crâne jusqu'au fragment des pieds en passant par le bassin, etc. Ce qui nous donne une signification tout à fait particulière à ces incinérations donc alexandrines, mais aussi de façon plus large aux incinérations de tradition grecque, voire plus largement indo-européenne. Eh bien, lorsque le prêtre passait sur le bûcher le lendemain, il récupérait de façon soigneuse, voire systématique, tous les fragments osseux, même les plus petits, pour les mettre soigneusement par ordre anatomique dans ce vase. Et ça nous donne, avec à l'intérieur des vases même, eh bien, les offrandes destinées aux défunts, des petits vases à huile ici, comme vous le voyez, voire des coupes. Ce qui nous donne, donc, et ces vases, encore une fois, étaient soigneusement fermés avec parfois des empreintes de sceaux. Ce qui nous donne une signification tout à fait particulière de l'incinération grecque, qui est une, non pas dit comme dans nos mentalités contemporaines, disparaître de la surface de la terre, laisser la terre aux vivants, suivant le titre d'un certain nombre d'associations qui militent en faveur de l'incinération, mais une sorte de héroïsation où l'on enlève tout ce qui est putrescible du corps humain de façon à garder soigneusement ce qui subsiste à tout jamais, les ossements, les os brûlants mais ne se déformant pas donc sur ces bûchers et pouvant donc être mis systématiquement dans ces vases. Revenons à notre vase de cette tombe d'Ibraméia. Eh bien, sur l'épaule, on lit le nom, on pouvait s'y attendre, le même nom du personnage en question, Cléitarché, Timésitéou, Cresté Caïré. Donc il y avait à la fois le nom sur la paroi et le nom sur le vase. Avec une scène tout à fait intéressante et unique sur la paroi, avec ces danseuses, vous voyez ici, qui sont munies de tirses. Donc, à première vue, on se dit, bon, bah, des ménades, des compagnes donc, du cercle de Dionysos, le dieu de la vigne, de l'ivresse, qui on en voit si souvent dans les tombes, notamment alexandrines, avec ce symbole donc, du bâton qui reverdit au printemps, qui donne des pampres et du raisin, etc. Cette renaissance de la nature, là aussi. Mais si on y regarde de plus près, eh bien, ces personnages sont au nombre de 4, personnages féminins, avec des fleurs dans les cheveux. Donc, il s'agit soit d'initiés au culte de Dionysos, soit plutôt eh bien, des saisons, des horailles, qui sont 4 dans la mythologie grecque, évidemment, correspondant aux 4 saisons, et qui sont elles aussi associées au cortège de Dionysos. Et c'est la première fois qu'on les voit apparaître à Alexandrie, notamment sur ces hydries de Hadra, mais elles sont évidemment tout à fait à leur place dans ce genre de vase. Cette tombe réservait une autre surprise, puisque dans nos fouilles de nécropole, et notamment de la nécropolis à l'ouest d'Alexandrie, on avait l'habitude de trouver des squelettes dans les loculies. Vous en voyez un ici. Ici, de nombreux autres crânes de précédents occupants qu'on avait repoussés pour installer plus confortablement le dernier arrivé. Et là, eh bien, une pièce de monnaie, une obole. Une obole, selon la tradition hellénique, qui permettait eh bien, de payer Caron, le nocher qui vous permettait de passer sur la rive des morts, de traverser le Styx. On munissait le défunt de ce viatique qui lui permettait de payer son passage. Mais là, dans la bouche d'un mort, eh bien, c'était pas une obole, c'était un œuf. Un œuf, vous le voyez ici, avec une inscription. Une inscription en grec, avec donc des caractères qui datent de l'époque hellénistique, que nous n'avons pas entièrement déchiffré. On fera appel ici à un collègue papyrologue qui lira plus facilement cette cursive, mais sans doute eh bien, une défiction, donc une malédiction qui eh bien, empêchera ce défunt de payer son obole et donc de ne pas gagner les enfers, de ne pas franchir le Styx. Donc ça, c'est quelque chose qui est unique à Alexandrie, je n'en connais pas d'autres exemples, et maintenant il nous faut chercher des parallèles ailleurs, dans cette littérature bien particulière des défictionnes. Nous allons cette fois eh bien, évoquer la découverte récente de ces dernières années, mais qui est encore en cours de développement, de collègues polonais qui travaillent eh bien, exactement depuis 50 ans. 60 ans, Alexandrie, depuis 1962. Nos collègues polonais, donc, qui travaillent sur le même site, qui se trouve ici, qui est donc le site du Théâtre romain, un immense parc archéologique, le seul au centre de la ville, avec cet Odéon que vous voyez ici. Et actuellement, eh bien, ils sont en train de travailler dans cette zone qui a... Et donc, ils ont publié récemment Alexandria Auditoria of Comeldica and Late Antiquity Education, montrant que toutes ces salles que vous voyez ici, qui ont été mises au jour ces derniers temps, et qui sont au nombre d'une vingtaine, eh bien, ces salles à gradins, avec une sorte de cathèdre au milieu, et souvent ici un plot, eh bien, étaient des salles de cours, des auditoria. Ces salles de cours où les étudiants prenaient place donc, sur les gradins avec le professeur du haut de sa chaire. Et ici, eh bien, un endroit souvent cimenté où l'étudiant eh bien, présentait sa leçon. 20 salles de 80-90 places chacune qui correspondent exactement au nombre de places de l'Odéon une fois qu'il a été agrandi au cours du IVe siècle. C'est une découverte particulièrement importante parce que ces auditoria eh bien, datent et ont été en activité depuis le IVe siècle et surtout le VIe siècle jusqu'au VIIIe siècle après Jésus-Christ. Et cela nous éclaire sur un certain nombre de questions qui restaient en suspens. On connaît la date de la fermeture de l'école d'Athènes. On ne connaissait pas la date de fermeture de l'école d'Alexandrie. Bien visiblement, c'est parce qu'elle n'a jamais fermé. On continuait ici à enseigner la philosophie antique, Platon, Aristote, Plotin, les sciences antiques, la médecine, sciences des ingénieurs. Et donc, on se demandait comment Hypatie, qui est assassiné au début du 5e siècle, continuait son enseignement païen au milieu de l'Alexandrie chrétienne. Eh bien, là, on en a un témoignage, et un témoignage tout à fait intéressant par sa date, puisque ces salles n'ont cessé d'être utilisées jusqu'à ce qu'elles soient recouvertes par une nécropole omeyyade. Elles ont servi jusqu'au 8e siècle. Donc, pendant plus d'un siècle après la conquête arabo-musulmane de 642 après Jésus-Christ Alexandrie. C'est tout à fait intéressant parce qu'on se demandait comment un certain nombre d'œuvres que nous connaissons de l'Antiquité nous avaient été transmises seulement par leur traduction en arabe. Il y a des ingénieurs alexandrins comme Ctésibios qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ, dont on a perdu la quasi-totalité de l'œuvre en grec. Même un livre d'Aristote qu'on ne connaît que par sa traduction en arabe. Eh bien, là, nous avons sans doute un chaînon manquant qui nous permet de voir la transition depuis le vieux monde gréco-romain et l'Alexandrie, donc la fin de l'Antiquité, vers Bagdad. Donc là, c'est un chaînon manquant qui commence à réapparaître sous nos yeux. Et nos collègues polonais sont actuellement au travail ces jours-ci pour dégager encore plus de ces auditoriats. On ne sait pas combien il y en aura à la fin. Je vais terminer par une de nos activités actuelles qui concerne une partie du mobilier. C'est du mobilier, c'est de l'immobilier, comme vous allez le voir. Une partie des éléments archéologiques que nous mettons à jour à Alexandrie au cours de nos fouilles, il s'agit des mosaïques. Des mosaïques d'Alexandrie, qui sont une spécialité d'Alexandrie, puisque Pline l'Ancien, dans son encyclopédie, consacre des développements aux artistes, aux mosaïstes alexandrins, dont il dit qu'ils excellaient dans leur art. On en a quelques témoignages, puisqu'il y a des mosaïques trouvées en Sicile, en Crète, qui portent la signature des mosaïstes alexandrins. Dans une des fouilles que nous avons menées au cœur de la ville, d'une maison qui date de la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire juste après la fondation d'Alexandrie en janvier 331 avant Jésus-Christ, là, dans une salle à manger, nous avons trouvé une mosaïque extrêmement simple. Elle a échappé heureusement aux colonnes de béton moderne des promoteurs qui étaient un peu pressés dans leur projet immobilier. Et là, l'entrée de la salle à manger avec ce motif de damier et au centre, un motif tout à fait simple qui est cette rosace qui est tout à fait reliée elle aussi à Dionysos. C'est sans doute là qu'on mettait le cratère du banquet. Vous voyez, extrêmement simple puisqu'il s'agit de galets blancs. Il y a des galets noirs qui rappellent exactement les sœurs, les jumelles de cette mosaïque, Apella et ailleurs en Macédoine. Et elles sont de la même date. Donc c'est intéressant de voir là le témoignage qu'Alexandre le Grand venait, en conquérant en Égypte, fonder cette nouvelle capitale d'Alexandrie, et qu'il n'était pas seulement à la tête de ses troupes, mais aussi qu'il avait dans ses bagages ses architectes, ses urbanistes, on le sait, mais aussi ses artistes, ses artisans, qui permettaient de recréer un urbanisme et un habitat qui était semblable, qui leur faisait se rappeler celui qu'ils avaient laissé dans leur Macédoine natale. À côté de ces mosaïques de la très haute époque hellénistique, nous avons également trouvé, et ça c'est un des problèmes, Alexandrie, à chaque fois qu'on fait une fouille, on trouve des mosaïques, d'autres salles à manger, en place notamment celle-ci, vous voyez l'endroit en pis pour mettre les lits, exactement comme dans la la salle à manger précédente, et au centre, eh bien, un motif avec une méduse, qui, l'entrée se faisait par ici, qui était censée pétrifier du regard les intrus au banquet, avec d'autres motifs sur lesquels je vais revenir maintenant. Ce motif central donc, est composé d'un médaillon, et lorsque nous avons soulevé cette mosaïque pour la déposer, pour la restaurer, eh bien, on s'aperçut qu'il s'agissait d'un plateau d'argile en opus vermiculatum, c'est-à-dire que les tesselles mesurent quelques millimètres de côté seulement. Et donc le propriétaire de la nouvelle maison, de la future maison, était allé dans un atelier de mosaïste et avait choisi son tableau. Ce médaillon, cet emblème, pèse environ 60 kilos, donc on peut le transporter facilement à main d'homme. Et donc c'est tout autour de ce parti considéré comme le chef-d'œuvre, eh bien, qu'on avait construit en un opus plus gros, plus grossier, en opus vermiculatum, en opus tessellatum, ici, vermiculatum, tessellatum, avec des tesselles cette fois-ci qui font un centimètre de côté, eh bien, ce motif d'écaille du bouclier d'Athéna. Et cette mosaïque date de 150 après Jésus-Christ. Elle montre bien encore la virtuosité des Alexandrins, donc en pleine époque romaine, avec, c'est là que je vais m'arrêter, ces motifs floraux, donc multicolores, avec ces marbres, ces blancs, ces pierres de couleur, avec l'usage aussi bien du porphyre que du granit, et voire de la faïence bleue égyptienne, avec des motifs géométriques très simples. Vous voyez ici le carré. Donc un carré délimité par des lignes noires, avec ici, en blanc, avec à l'intérieur eh bien, un carré de couleur. Ici, même chose avec un rectangle en blanc, délimitant un carré rempli de couleurs. La même chose avec un trapèze, etc. Donc des motifs géométriques emboîtés les uns dans les autres, des motifs simples. Dans cette Alexandrie, eh bien, qui était la patrie d'Euclide, hein, qui au IIIe siècle avant Jésus-Christ donc avait travaillé au musée et à la bibliothèque d'Alexandrie pour y fonder sa géométrie. Nos motifs, nous les retrouvons ici. Vous voyez ce carré, triangle, des trapèzes. Et c'est ce que l'on voit, donc, puisqu'on a fait attention à ces motifs, mais ces motifs eh bien, sont imbriqués. Il y a là donc un hexagone, vous voyez, avec cette fleur qu'on a vue tout à l'heure. Mais c'est aussi des motifs plus grands. Vous voyez ici un dodécaèdre qui est enclenché dans un autre dodécaèdre que vous voyez ici, un troisième ici. C'est-à-dire qu'il faut presque fermer les yeux pour avoir cet aspect illusionniste qui permet d'imbriquer des motifs simples d'hexagones, de carrés, de triangles pour composer des motifs plus grands qui sont interséquents eux-mêmes. Vous voyez cette science de la représentation de la géométrie la plus simple est en œuvre ici parmi les réalisations des mosaïstes alexandrins. J'en donnerai un autre exemple avec ce chef-d'œuvre des mosaïstes alexandrins qui est présenté au musée de la bibliothèque alexandrina, qui a été trouvé à l'endroit même là où on a creusé les fondations de la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie. Il s'agit malheureusement d'une mosaïque qui est brisée ici. Vous voyez la tête d'un petit personnage noir ici, avec les restes de son corps ici, et ici un personnage blanc, deux jeunes lutteurs. Deux jeunes lutteurs, la scène est bien campée, puisque vous voyez, ils sont dans le sable. Et ici, eh bien, il y a une vasque. On est certainement dans le gymnase, dans un exercice donc favori des jeunes Grecs. Et sur la bordure de cette mosaïque exceptionnelle, qui date de 150 avant Jésus-Christ, hein, qui tapissait certainement le sol d'une des pièces des palais royaux, eh bien, la bordure est tout à fait intéressante. Et cette géométrie, cette fois, avec ses carrés, et cette svastika qui se déroule ici, ces méandres, eh bien cette fois-ci, elle est représentée en trois dimensions. Vous voyez, ce carré, eh bien en fait, a une profondeur qui est donnée par l'ombre. C'est encore une fois l'art illusionniste qui est rendu en deux dimensions, où là, on a le sentiment de voir la profondeur. Donc, selon certainement des calculs et des rendus qui appartiennent aussi bien à la tradition de la grande peinture grecque que de la science des ingénieurs alexandrins. Et je terminerai donc cette présentation par une autre mosaïque que nous sommes en train de finir de restaurer. Donc, dans une exposition que nous sommes en train de monter sur les mosaïques d'Alexandrie, en évoquant donc ces salles à manger que nous avons découvertes et donc la vie quotidienne des alexandrins. Cette fois-ci, une mosaïque du 3e siècle après Jésus-Christ, qui présente sous forme presque de vignette de bande dessinée, eh bien, les aventures d'un pygmée, voyez, ce pygmée avec ses deux paniers à balancier, qui est en train de se faire attaquer par une oie, qui essaie d'éviter les serpents, pendant qu'ici, il y a donc un pélican qui est en train d'attaquer un petit pélican qui est en train de prendre un poisson, etc. Donc avec toute la faune et la flore du Nilotique. Et là, eh bien, ça sera ma dernière image. Vous voyez, c'est cette image d'un pique-nique champêtre où, sous un dais de toile, eh bien, il y a ici encore une autre salle à manger, mais cette fois-ci donc à la campagne, avec ces personnages qui sont donc à moitié couchés sur leur matelas, avec un homme barbu, un homme plus jeune, une femme et un enfant ici, qui sont en train de pique-niquer en regardant le spectacle d'une danseuse du ventre, que vous voyez ici, qui est en train de se faire attaquer par une oie. Ici, il y a sans doute le flûtiste, une danseuse naine, pygmée, avec ici les deux amphores qui évoquent toujours l'ivresse qui accompagne aussi bien le monde des vivants que le monde des morts. Et c'est sur cette parole que je vais arrêter mon propos ce soir, notre promenade d'Alexandrie. Pour les plus récentes découvertes, vous pourrez voir les développements sur le site du CE Alex. Merci pour votre attention.
L'Agora des Savoirs, des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.